comment la lumière s'est faite dans le cœur d'un homme, progressivement, et j'espère que ça vous aidera,
parce que je le pense vraiment de plus en plus, ce n'était pas toujours ma conviction dans le passé, mais je crois qu'on vient à la foi progressivement dans le Seigneur, et on a besoin des fois de temps, parce que nous sommes tellement lents à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Alors on va voir comment un homme s'est tourné vers le Seigneur, 2 Rois, chapitre 5, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 19. 2 Rois, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 19.
On va essayer de faire mieux.
On va essayer de faire mieux.
Voilà.
Est-ce que vous m'entendez? Le frère qui est au fond, vous m'entendez? C'est très bien. Je vais essayer de forcer ma voix. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu ?» pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur !» Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant accepte, je te prie un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel.
que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimmon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, « Va en paix ». Il le quitta et parcourut une certaine distance. Amen. Alors ce texte commence d'une façon magnifique parce que si vous connaissez la Bible, le Dieu de la première partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, est appelé souvent le Dieu d'Israël. Avec raison, et en même temps, dès le départ dans ce texte, il montre qu'il n'est pas que le Dieu d'un peuple, mais qu'il est finalement le Dieu de tous les hommes. Et ici, particulièrement, un homme assez étonnant, c'est pas forcément vers cet homme-là que nous aurions pensé que Dieu se serait tourné, mais Naaman, qui était un chef syrien et qui avait ravagé le pays d'Israël. Dieu est extraordinaire. Il aime tous les hommes. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. À lui soit la gloire. Alors, de Naaman, il est déclaré que c'était quelqu'un qui jouissait d'une grande considération, qu'il était très important. Ah, il y a ce que les gens voient de nous, la façon dont ils peuvent nous regarder, et ce qu'ils ne voient pas. Et ce qu'on ne voyait pas chez cet homme, c'est qu'en dessous de ses vêtements, il avait la lèpre. Les malheurs, les vies détruites, nous pouvons les cacher, mais Dieu les connaît, et Dieu veut y remédier. Et Dieu veut venir nous secourir, Dieu veut venir nous guérir, Dieu veut venir nous sauver. Il connaît la lèpre qu'il y a dans notre cœur, il connaît le péché qu'il y a dans notre vie et qui nous détruit, qu'on essaye de cacher, tous, chacun d'entre nous, mais Dieu voit comme dans un livre ouvert. À lui soit la gloire. Ah, remarquez, retenons aussi dans ce passage qu'il y avait une petite jeune fille qui était là dans sa maison et qui avait été emmenée captive par les troupes syriennes et ramenée chez cet homme. Et ça me parle de l'amour de Dieu. Pourquoi ça me parle de l'amour de Dieu? Dans deux choses. D'abord, cette petite fille, elle n'était ni amère contre Dieu, ni en guerre contre celui qui l'avait capturée. Et ça, c'est important. Et là, je voudrais m'arrêter deux secondes pour nous, chrétiens. Faisons attention de ne pas être amère contre Dieu dans des moments difficiles de notre vie. Vous êtes peut-être passé dans ces dernières années par des moments difficiles, des choses où vous en voulez à Dieu, vous vous dites, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il y a eu telle chose dans ma vie? Et en voulant à Dieu quelque part, vous vous détruisez vous-même, vous ne permettez pas la vie de Dieu de couler en vous et à se répandre autour de vous. Et vous ne réalisez pas que, peut-être, vous n'êtes pas bien, mais autour de vous, il y a des gens qui sont plus mal que vous, ils vont en enfer, ils sont perdus, ils sont tenus par l'adversaire. Que le Seigneur vous guérisse, que dans votre misère et malheur par lequel vous passez, vous puissiez quand même vous appuyer sur le Seigneur, être relevé. Et puis, elle avait dans ce Naaman, celui qui avait été à la base de son enlèvement. Mais voilà, c'était une jeune fille extraordinaire, une petite fille extraordinaire. Elle était animée de l'amour de Dieu pour celui qui lui avait fait du mal. Est-ce que ça ne nous parle pas de l'amour de Dieu ? La Bible nous dit que lorsque nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui. Et à travers cette petite jeune fille, nous voyons vraiment l'amour de Dieu pour nous les hommes. Nous sommes foncièrement mauvais, nous avons tourné le dos à Dieu, nous vivons sans Dieu. Mais Dieu vient jusqu'à nous. Dieu nous aime. Il veut se réconcilier avec nous par son Fils. À lui soit la gloire. Une petite jeune fille, là, une petite gamine insignifiante, quelque part un peu faible, méprisante. Dieu ne vient-il pas à nous par l'Évangile? Et l'Évangile nous surprend. Il ne vient pas à nous en départ apparemment avec force, avec puissance, mais il nous présente Jésus crucifié. C'est un scandale, c'est une folie pour les gens. Comment cela, un homme mort pour nous sur la croix pourrait nous sauver? Comme lui aurait pu se dire, mais cette gamine, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais merci Seigneur, il a entendu cette gamine, il l'a cru, et on connaît la suite. Ne méprisez pas l'Évangile ce soir. Ne vous dites pas, ah, il nous parle constamment d'un Jésus mort sur une croix comme nous l'avons chanté. Mais la croix est puissante pour vous sauver. La croix est puissante pour vous délivrer. Amen. À Dieu soit la gloire. Alors remarquez que quand elle a parlé, la Bible souligne que Naaman a cru. Et même son roi a cru.
Parce que l'un comme l'autre, quand ils ont entendu ce que cette gamine a dit, l'un comme l'autre, lui est allé voir le roi lui a dit « Vas-y, pars !» Ah, la foi a été suscitée dans leur cœur. Ça a commencé petitement. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction que notre foi doit passer par bien des combats, bien des luttes pour s'affermir dans le Seigneur. Et on va le voir à travers cet homme. D'abord, c'est vrai, Naaman croyait vraiment que Dieu pouvait le guérir. Et c'est pour ça qu'il est parti en Israël. Le problème, c'est que, on tâtonne tous, hein, la Bible nous dit qu'on est comme des aveugles. Et qu'il faut quelque part que Dieu nous prenne par la main. Lui, ses premiers pas, il n'est pas allé dans la bonne direction. Il s'est dit, je vais aller en Israël parce que là-bas, c'est tous des croyants. Il s'est dit, c'est là-bas que je dois partir. Et il est tombé sur le roi d'Israël. Malheureusement, ce n'était pas forcément le meilleur des hommes. Et quand il est arrivé là-bas, il a fait comprendre que cet homme ne pouvait rien faire pour lui. Peut-être que des fois, vous vous êtes tourné vers une religion. Vous vous êtes dit, ah, si je vais là-bas, je sais. Là-bas, c'est la religion, on va me parler de Dieu. Puis vous êtes arrivé, puis vous vous êtes dit au bout de quelque temps, mais qu'est-ce que je fais ici? Je n'aurai aucun secours dans cette religion. Je n'aurai aucun secours là où je suis allé. Et il tâtonnait. Hein. Et nous, des fois, on tâtonne pendant des années avant de venir à la pleine lumière. Mais merci Seigneur, Élisée a fait entendre sa voix et il lui a dit, appelez-le, dites-lui de venir à moi. Et je crois que même dans nos tâtonnements, Jésus fait entendre sa voix et nous rappelle à lui. Heureusement qu'Élisée a dit cela. Dans les tâtonnements de cet homme, Dieu l'a rappelé à lui par son prophète Élisée. Il lui demande de venir. Alors, là encore, il tâtonne. Premièrement, il se déplace avec une énorme somme d'argent, des beaux vêtements de fête. Il y en avait pour des sous. Et on imagine dans sa tête que c'était une façon pour lui, quelque part, une tentative d'acheter Dieu, de payer sa guérison. Je voudrais vous dire, le salut que Dieu nous offre est gratuit. C'est une grâce. Amen. Avec Dieu, on ne paye pas. Oh, je sais qu'il y a des endroits où on vous dit que pour être béni, il faut donner beaucoup d'argent. Un jour, un homme congolais m'a dit, en entrant dans une assemblée où j'étais pasteur, il m'a dit, ce que j'aime dans l'église où tu prêches, vous ne parlez jamais d'argent. Alors j'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, parce qu'avant, avec ma femme, on est dans une église où le pasteur disait que Dieu avait bien fait les vestons et il avait mis la veste de notre portefeuille près de notre cœur. Parce qu'il savait qu'il devait d'abord toucher notre cœur pour qu'on donne. Il m'a dit, toi, tu ne parles jamais d'argent. Je ne vous parle pas d'argent ce soir. Je ne vous dis pas, pour être sauvé, vous devez sortir votre carnet chèque et payer je ne sais pas combien de milliers d'euros pour avoir la bénédiction. Ce que Dieu donne, c'est gratuit. Ça a coûté très cher, ça a coûté la vie de Jésus. Mais tout ce que Dieu nous donne, c'est gratuit dans sa grâce. Ah, c'est une première erreur qu'il a faite, mais il tâtonne, il cherche, comme nous, on cherche. Deuxième chose, la Bible nous dit que fait une autre erreur, c'est que quand le prophète lui parle de ce qu'il doit faire, et surtout que le prophète ne sort même pas à sa rencontre, il est indigné, il est en colère. Ah lui, il est venu, il s'est mis sous son plus beau jour, il s'est déplacé pour aller voir le prophète avec des cadeaux. Le prophète ne sort même pas. Et en plus, il lui dit d'aller se laver dans les eaux boueuses du Jourdain, alors que dans son pays, là-bas, le Parpar et la Mana, ce sont des eaux limpides, des eaux propres. Et il lui demande d'aller se plonger dans un lot où il y a de la boue. Oh, c'est humiliant! Et c'est vrai que des fois, l'évangile nous percute. Parce que quand nous l'entendons, pas toujours très agréable. Dieu nous dit, t'es pécheur, tu es perdu. Tu vas droit vers l'enfer. Oh, c'est pas agréable parce que nous, on est venus à l'église, on était bien habillés. Et voilà que d'un coup, on s'entend dire qu'on est perdu et pécheur. Ça nous percute. Et je ne sais pas si vous êtes en colère avec ce que je vous dis ce soir. J'aimerais être comme les serviteurs de Naaman et vous dire, vous ne mettez pas en pétard, vous ne mettez pas en colère. On est tous passés par là, on a eu tous besoin de réaliser qu'on était perdus et pécheurs. Mais on est aimé de Dieu, la preuve, il nous appelle, il nous cherche. Et quand il nous dit qu'on est pécheurs, c'est pour nous purifier, c'est pour nous changer, c'est pour nous relever. Amen. Alors, acceptez ce soir, malgré les beaux vêtements que nous avons tous, quand nous essayons de nous approcher de Dieu, parce que on se pense tous des gens bien. Acceptez le diagnostic de Dieu. Acceptez de descendre dans la boue. Acceptez ce qu'il dit sur vous. Et merci Seigneur, Il a fini par accepter ce que les serviteurs lui ont dit. Il est revenu à de meilleurs sentiments. Revenez à de meilleurs sentiments. Vous n'êtes peut-être pas bien disposé quand vous êtes entré dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il attendrisse votre cœur. Qu'il l'ouvre. Et ensuite, il est dit qu'il s'attendait quelque part comme un acte magique. Il pensait que le prophète allait venir, allait mettre sa main, faire quelque chose. Mais ça ne s'est pas passé comme il imaginait. Peut-être que dans votre tête, ça ne se passe pas trop comme vous l'imaginiez. Vous étiez venu ici, vous aviez fait votre plan. Vous vous étiez dit, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et puis depuis tout à l'heure, ce que vous entendez, vous dites, oh là là, c'est quoi cette histoire? C'est pas du tout comme ça que j'avais prévu, moi. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il s'imaginait, et ses serviteurs lui disent, il pouvait s'imaginer qu'il devait faire des choses difficiles. Et il y a des religions qui nous donnent, entre guillemets, des choses difficiles à faire. En Iran, c'est une forme de l'islam, c'est à ce qui paraît pas l'islam d'origine, mais on voit des gens dans les rues, le dos nu, qui se frappent à coups d'épée jusqu'à ce que le sang gicle sur leur dos. On apprend que dans certains pays, notamment des pays bouddhistes, des hommes font des kilomètres sur leurs genoux pour essayer d'apaiser leur dieu. Les religions proposent toutes sortes de choses terribles qui détruisent les hommes. J'ai l'impression qu'on préfère faire des choses difficiles comme un petit peu pour prouver à Dieu qu'on a mérité notre salut que de le recevoir par grâce, simplement par la foi. Ah, si c'était difficile, on en sortirait quelque part si on arrive au bout, un peu glorifié. Mais souvent, ce que les religions nous demandent ne nous laisse jamais notre âme en paix. Parce que notre âme nous dit pas assez, t'en as pas fait assez. Mais l'évangile, merci Seigneur, c'est simple. Et ses serviteurs lui disent, mais t'as pas demandé quelque chose de difficile. Il t'a simplement demandé d'aller dans l'eau et de te baigner. Tu veux pas être simple et l'accepter? Est-ce que ce soir tu veux pas être simple? Et saisir simplement la grâce de Dieu pour ta vie. Alors il y va et il doit se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Moi, j'imagine, il plonge une fois, il se relève, il y a encore l'épreuve. 2 fois, 3 fois, 7 fois. Ah, si vous voulez devenir chrétien, il faudra être persévérant. Parce que tout ne va pas se faire tout de suite. Et je voudrais vous aider, peut-être que vous venez depuis quelque temps en réunion, et vous vous dites, oh là, mais qu'est-ce que c'est long. Oh, qu'est-ce que ça me colle encore à la peau. Je voudrais vous rassurer, toute votre vie chrétienne, il y aura des choses à changer. Et si dès le départ vous vous découragez, je voudrais vous dire qu'il y a encore du chemin, mais que le Seigneur va vous aider, va vous changer, va vous transformer. Ne perdez pas courage. La foi véritable, elle est persévérante. Et lui, il s'est plongé 7 fois. Et quand il est ressorti des eaux du Jourdain, la Bible dit qu'il avait comme la peau, littéralement, d'un bébé. La peau d'un bébé. Il était purifié. Mettez votre foi en Jésus. Et Jésus vous purifiera de tous vos péchés par son sang qu'il a versé à la croix. Vous allez devenir un être nouveau. La Bible dit que nous devenons comme des petits-enfants. Quelque part, notre vie recommence avec Dieu. Tout est possible. Qui aurait pu dire qu'un homme qui était couvert de lèpre comme lui puisse sortir avec une peau de gosse, une peau de bébé, une peau nouvelle? C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous fait naître de nouveau. Amen. Magnifique l'évangile, on ne se lasse pas. Alors, quand il voit ce qui se passe, ah, c'est plus le même homme. Il fait une confession de foi extraordinaire. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu vivant que le Dieu d'Israël. Et si tu confesses de ta bouche, ce soir, que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort pour toi sur la croix, qu'il est ressuscité, la Bible dit, tu seras sauvé. Ah, j'aimerais ce soir que tu puisses le dire de tout ton cœur. J'aimerais que toi aussi tu puisses t'engager avec le Seigneur. Oh, c'est vrai que ce texte pour nous chrétiens, il est limpide, il nous parle du baptême. J'aimerais que toi aussi un jour, à ta confession de foi, confession de ta bouche, tu puisses aussi quelque part t'engager avec lui par le baptême. Et que désormais, tu sois quelqu'un vraiment qui marche avec le Seigneur Jésus. Alors, il est toujours dans cet attonnement. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, même nous, chrétiens, je pense que le frère Ferris pourrait le dire, plus on avance avec le Seigneur, et plus on découvre des choses nouvelles. Et on tâtonne. Et je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on tâtonnera. La lumière va croissant sur le chemin des juges, je le crois vraiment. Je crois qu'on va de lumière en lumière, de progrès en progrès. Alors il tâtonne et il prend de la terre d'Israël. Il y a du beau dans ce qu'il fait. Hein. Parce qu'il sait que sur cette terre-là, il y a le vrai Dieu et c'est comme ça qu'il faut l'adorer. Mais il prend de la terre parce qu'à l'époque, les gens étaient persuadés que là où il y avait un Dieu, il y avait la terre où il habitait. Et il veut l'emporter chez lui. Et il est toujours dans le tâtonnement, il n'est pas complètement éclairé. Et vous allez devenir chrétien. Ce soir, en vous tournant vers Jésus, vous allez naître à la vie nouvelle. Mais au début de votre vie chrétienne, vous allez faire des drôles de trucs, vous allez avoir de drôles de pensées. Et si vous êtes comme moi, des fois vous allez vous dire au bout de quelques mois, mais est-ce que j'étais vraiment chrétien? Est-ce que j'avais compris? Mais bien sûr, vous avez été sauvé. Mais ça s'éclaire un peu à la fois. Il y a des choses que vous allez faire au début de votre conversion, et dans des années, vous allez en rigoler. Vous allez dire, oh, quand j'étais converti au début, je faisais ça. Mais c'était n'importe quoi. Mais il y avait du beau quand même. Tout n'était pas acheté. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qui fait peur à cet homme. C'est que comme il est le bras droit du roi, quand il va retourner dans son pays, il sait que pourtant le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. Il va devoir rentrer dans le temple du Dieu de son maître. Et il va devoir se prosterner avec lui. Quand on est jeune chrétien, des fois, dans nos premiers pas, on fait des choses qui nous coûtent, qui nous font mal. On a des bons scrupules. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, si je fais ça, est-ce que tu seras bien avec moi? Est-ce que tu continueras de m'aimer? Le prophète lui dit, va en paix. Va en paix. Et là, je parle peut-être plus pour nous, chrétiens. Faisons attention aux nouveaux qui viennent. Vous savez, des fois, les nouveaux qui viennent, on aimerait qu'ils comprennent tout ce qu'il nous a fallu 20 ans pour comprendre. Alors, ils arrivent. Moi, je me souviens d'une église où une sœur, parce qu'on ne fait pas ça chez vous, hein, mais dans le Nord, on fait ça. Les sœurs mettent le foulard pour la prière. Et il y a une toute nouvelle qui rentre. La sœur arrive, lui dit, mettez le foulard ici. Ben, elle ne sait même pas ce que c'était. Elle me dit, c'est quoi? Pourquoi on me donne ce bout de tissu? Alors là, après, on est allé voir la sœur. Pourquoi vous dites? Mais on se couvre dans la présence du Seigneur. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'elle a pu comprendre? Elle n'a jamais entendu l'évangile. Je crois que quand on est dans les premiers pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et il faut que jamais nous, chrétiens, nous oublions d'où le Seigneur nous a tirés. Et il faut aider ces jeunes qui commencent. Il faut être à leur côté. Il faut les rassurer. Il faut les aider dans leurs premiers pas. Il faut leur parler de la grâce de Dieu. Parce que c'est par grâce. Et toute notre vie, ce sera dans la grâce qu'on sera sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes peut-être comme Naaman. Vous tâtonnez. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a fait naître la foi dans votre cœur, il va l'amener vraiment à sa pleine maturité. Soyez sauvés. Soyez purifiés de vos péchés par la foi en Jésus-Christ. Croyez que son sang qu'il a versé à la croix, même si c'est une folie pour beaucoup d'hommes, c'est le seul moyen pour vous d'être purifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie ensemble.